Jacques de Guilbon, bonjour.
Bonjour.
Nous vous avons reçu il y a un an à peu près, à l'occasion de la création, de la fondation de votre maison d'édition, La 11e Heure. Avant d'entamer, de nous engager dans le sujet à proprement parler, donnez-nous quelques nouvelles de cette maison d'édition.
Eh bien donc, La 11e Heure, c'est une petite maison qui a été fondée il y a un an et demi maintenant, avec laquelle nous avons publié une dizaine de livres. Elle a cette spécificité, enfin plusieurs spécificités, c'est-à-dire qu'elle est vouée à remettre au goût du jour tous les ouvrages, que ce soit de la littérature ou des documents, des essais, qui tournent autour de la question sociale vue par l'Église catholique. Première chose. Et ensuite, c'est une maison très volontairement artisanale qui veut être imprimée en France, pas loin, localement, qui travaille avec donc des imprimeurs qui sont généralement coopératifs, c'est-à-dire qui possèdent leur propre outil de production, avec un papier qui est choisi, tout est français, tout est bien diffusé en France. On essaye de payer chacun à son juste prix. Et pour ça, on travaille aussi en faisant des préventes sur Internet, c'est-à-dire qu'on vend une partie des livres en souscription, comme on disait naguère, avant de les avoir fait paraître, ce qui nous permet d'assumer les frais de production ensuite et d'arriver à un équilibre certain et d'ajuster nos tirages, puisque c'est aussi aujourd'hui un grand problème des éditeurs, c'est de savoir combien ils doivent tirer, pas trop, parce qu'en général on tire trop et après des livres se retrouvent au pilon. Bref, il y a beaucoup de gaspillage là-dedans et des éditeurs qui coulent aussi beaucoup à cause de ça. Nous essayons de rester petits parce que small is beautiful et nous croyons beaucoup à la subsidiarité et aux petites choses en suivant la pensée de l'Église là-dedans, je crois. Donc voilà, donc cette maison d'édition se porte bien en tant que petite.
Oui.
Elle grandit.
Elle a combien de salariés ?
Elle n'a aucun salarié, en fait. Elle a un statut plutôt associatif pour l'instant.
Oui.
Voilà. Le principe était qu'elle soit à un équilibre déjà financier, un équilibre en tout cas dans ses investissements, ce qui est le cas. Et après, quand on commencera à faire un peu de bénéfices, qui ne devrait pas trop tarder, on pourra commencer à se payer un peu. Mais pour l'instant, c'est un travail plutôt bénévole, pro bono, qui est un travail, moi, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je suis très reconnaissant de pouvoir faire ça, de donner des livres que j'ai aimé fabriquer,
oui,
dont j'ai aimé le texte, que de les donner à des lecteurs qui sont quelques centaines en général, mais qu'on connaît presque directement, voilà, et qu'on connaît par les libraires. Et qui, voilà, il y a deux jours, j'étais à la Procure à Paris et un libraire m'accoste alors que je n'avais rien demandé, en me disant « Oui, votre encyclique va arriver dans nos rayons demain, rassurez-vous, elle va être là. » Enfin, j'étais très touché par ça. Ce libraire qui savait que j'étais en train de chercher,
oui,
où était mon encyclique dans sa librairie, alors que je n'avais rien demandé, que je ne le connaissais pas. Et il m'a reconnu. Voilà, après, on a parlé de tous les livres qui vendaient, nos livres, etc. Enfin bref, du marché du livre, si on peut dire, aujourd'hui, qui ne se porte pas très bien, mais qui a encore, heureusement, beaucoup d'acheteurs et de gens férus encore de littérature, et encore quelques lecteurs qui font que ça peut continuer à exister dans un monde de plus en plus dématérialisé, comme on va pouvoir en parler.
Oui, l'encyclique est arrivé un petit peu à point nommé. Est-ce que vous imaginiez que vous auriez, un an après la fondation, l'occasion de travailler, de publier
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une divine surprise, si j'ose dire. En fait, on a l'intention, avec La 11e Heure, de republier une dizaine d'encycliques sociales, depuis Rerum Novarum jusqu'à aujourd'hui, qu'on voulait faire commenter par des économistes contemporains qui en diraient ce qu'il y avait encore à lire aujourd'hui, au goût du jour, comment les comprendre, etc. Des économistes qui ne sont pas forcément d'ailleurs tous des chrétiens, mais en tout cas qui ont une vision chrétienne de la chose. Et là arrive Magnifica Humanitas, donc on était déjà en pourparlers avec la librairie éditrice Vatican, qui est l'organe du Vatican qui possède les droits de ces encycliques. Ils me disent, est-ce que vous ne voulez pas prendre celle-là qui sort? Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait, un petit peu au dernier moment, parce qu'en plus, ces encycliques, on ne sait jamais à quelle date elles vont sortir exactement. Il y a toujours une
Elle est sortie le 25 mai.
C'est ça, le 25 ou le 26, oui, par là. Il y a toujours un peu de secret à Rome. Le texte est envoyé au dernier moment.
Oui.
Et on s'est dit, publions-la, même s'il y a déjà quelques autres éditeurs français qui la publient, et très bien aussi dans leur catégorie.
Il y a plusieurs éditions déjà.
Il y a plusieurs éditions. Nous, la nôtre, je pense qu'elle a cette spécificité qu'on a voulu justement attendre quelques semaines pour pouvoir la faire commenter.
Oui.
On va en parler par un évêque français et par deux intellectuels français qui connaissent bien le sujet de l'intelligence artificielle, qui sont par ailleurs des catholiques, voilà, pour donner un petit plus au lecteur de l'encyclique. Voilà.
Bon, très bien. Et quels sont les papes qui se sont le plus intéressés à la question sociale de l'Église, enfin à la question sociale ?
La question sociale, elle est C'est-à-dire, il est traité par les papes depuis 150 ans, oui, 140 ans, depuis...
Et avant, il n'y avait rien qui fasse allusion.
Il y a beaucoup de laïcs ou d'évêques qui en ont parlé. Monseigneur von Kettler en Allemagne, par exemple, dont on prépare une édition des textes, qui est un évêque qui publie ses textes vers 1865, donc c'est-à-dire presque 30 ans avant Rerum Novarum, oui. A une... ça s'appelle l'Église et la question sociale, a une analyse de la question ouvrière du XIXe siècle qui est lumineuse, qui est quasi marxiste dans l'analyse en fait, des faits, de ce que sont devenus les pauvres, leur rapport avec la bourgeoisie, et évidemment qui ne donne pas une résolution marxiste de la question, mais qui a vraiment déjà tout compris en fait, à cette question-là. Et ensuite, si on remonte en France, il y a Frédéric Ozanam, qu'on a publié aussi d'ailleurs à la 11e heure, dès 1830, s'empare de cette question et crée ce qu'on appelle les sociétés Saint-Vincent de Paul, qui sont toujours vivantes 200 ans après, qui s'occupent des pauvres. Il y a, on peut dire, Armand de Melun, Albert Demain, René de la Tour du Pain en France, enfin tous ces penseurs-là de la question sociale au XIXe siècle, qui s'en sont emparés et qui ont donné les outils, si on peut dire, au pape pour arriver à Rerum Novarum en 1891, qui est un peu une consécration de leur pensée et de leur travail et qui l'offre à l'Église universelle, ce qui est le principe d'une encyclique. Après, on peut remonter, si vous voulez, aux pères de l'Église des premiers siècles qui ont déjà une critique de la richesse. Mais voilà.
Mais elle est arrivée un petit peu au moment de... Enfin, c'est cette préoccupation a surgi au moment de l'industrialisation.
Ah, évidemment, parce qu'on n'a pas critiqué l'industrialisation avant qu'elle existe. Enfin, on pourrait, ce serait de la prophétie, mais voilà.
Oui. Non, et puis autrefois, il y avait... Même parce qu'il y avait un petit peu d'industrie, mais enfin, il n'y avait pas de quoi...
Non, et surtout, il y a jusqu'au XVIIIe siècle, en tout cas pour la France, mais ça vaut aussi pour le reste de l'Europe, il y a tout ce qu'on appelait les corporations ou les jurands, des choses comme ça, qui étaient une alliance entre l'ouvrier et le maître, qui était censée protéger le métier en général, donc à la fois
c'est vrai.
Le maître et l'ouvrier, et ça a été détruit par la Révolution française. On connaît la loi Le Chapelier, les décrets d'Allard, qui empêchent toute association, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du XIXe siècle, en France, si vous êtes 19 personnes au même endroit, plus de 19 personnes, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire que vous relevez de la loi, on peut vous envoyer en prison, parce que vous êtes rassemblés, en fait, vous n'avez pas le droit de vous associer, vous n'avez pas le droit de vous syndiquer, évidemment, vous n'avez pas le droit de vous protéger par quoi que ce soit. Donc tous les ouvriers sont livrés pieds et poings liés au capital et n'ont aucun moyen de se défendre. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une pensée sociale qui se développe pour essayer de protéger ces ouvriers qui sont jetés pour la première fois vraiment comme ça une sorte de moloch industriel comme des victimes et donc c'est là où l'Église s'empare vraiment du sujet en fait, voilà. Et aussi parce que donc l'industrie se développe à grande vitesse en même temps.
Et tous les précurseurs là, dans le genre Albert Demain, La Tour du Pain,
c'est René.
René de La Tour du Pain,
c'est le poète.
Oui, je confonds les deux. Et est-ce que vous envisagez de publier des textes d'eux sur le sujet ou vous pensez qu'ils sont un peu caduques maintenant ?
Non, René de La Tour du Pain, on travaille à son maître livre qui s'appelle Vers un ordre social chrétien, qui est un très gros livre, qu'il faut, à mon avis, expurger de certains passages, non seulement parce qu'ils sont obsolètes, mais parce qu'il y a des passages qui sont antisémites, par exemple, qui sont de. Pas de l'antisémitisme nazi, évidemment, mais de l'antisémitisme 19e siècle, de le capital, c'est le juif, vous voyez, des choses comme ça, qui n'ont, à mon avis, aucun intérêt aujourd'hui. Donc voilà, c'est un débat que j'ai avec les gens qui ont travaillé là-dessus. Moi, je pense qu'il faut enlever ces passages-là, parce que je ne vois pas ce que ça apporte en signalant qu'on les a enlevés. Voilà.
Oui,
parce que on peut aller les trouver, si on veut, en bibliothèque, si on a vraiment envie de les lire. Mais voilà, donc c'est aussi pour ça que ce livre-là, par exemple, n'a pas qui est vraiment un maître-livre sur la question en France, n'a longtemps pas été réédité, parce que ça souffre de cette question-là. Et comme dit Bernanos, M. Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Voilà, donc ce qui pouvait être vaguement supportable à la fin du 19e ne l'est plus du tout depuis, depuis les années 30. Donc évidemment, quel est l'intérêt d'avoir ces passages-là ? Donc c'est un peu un débat, pas que d'universitaire, je pense que c'est le public mérite de lire ce texte et d'en prendre les beaux passages et pas de lire forcément les autres.
Il sera toujours dans les lire plus tard. Il sera toujours temps de les lire plus
si
tard.
Si les gens ont vraiment envie, ils peuvent le trouver en bibliothèque. Voilà.
Exactement. Et puis peut-être aura-t-on pris davantage de recul vis-à-vis du sens de ces textes et que les juifs, la dénomination juive sera appliquée à un certain mode de fonctionnement et pas forcément à une race.
Oui, voilà, c'est ça. Mais il faut faire comprendre ça. Donc en fait, le mot juif, en l'occurrence,
Puis actuellement, ça serait vraiment malvenu.
Oui, c'est ça. Enfin, oui.
Et bon, Et donc, votre maison d'édition se porte bien. Quel est le prochain titre que vous envisagez de faire paraître ?
Eh bien, donc, il y a ce livre de Mgr von Kettler dont je vous parlais, la question sociale, qui serait préfacé par Yves Chiron, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent, qui est un grand universitaire historien de l'Église. Voilà.
Oui. C'est le grand historien de l'Église.
Exactement.
Mais il est plutôt jeune.
Non, c'est lui qui est venu, on s'est croisé à la bibliothèque, qui m'a dit ah, « tiens, vous devriez publier ça ». Je lui ai dit « d'accord, voilà, mais il est... je ne sais pas quel âge il a, mais en tout cas, il est vaillant. Hein,
Très bien.
Voilà. Je ne l'ai pas demandé son âge.
Cas, non, parce que...
dans un EHPAD.
Parce que moi, j'avais des ouvrages de Chiron, et que je n'ai pas lu du reste, que j'avais acheté pour avoir bonne conscience. Et j'étais jeune, et il me semblait qu'il était beaucoup plus âgé que moi, mais enfin...
Il est beaucoup plus âgé que vous, mais enfin, comme vous êtes très jeune, en fait, ça lui laisse une certaine marge.
Oui, voilà. Certainement. c'est très bien. Donc, vous êtes content.
Ça, et un livre sur Saint-François d'Assise et la poésie franciscaine de Frédéric Ozanam, en fait, justement, parce que c'est l'année de 800 ans de la mort de Saint-François d'Assise, donc c'est une année Saint-François, et Frédéric Ozanam, qu'on a déjà publié, qui est moi un grand maître, et aussi celui qui a réintroduit en France la question franciscaine au XIXe siècle, et Saint-François d'Assise, et notamment le cantique des créatures que tout le monde connaît maintenant, Loué sois-tu, etc., c'est lui qui est le premier à l'avoir retraduit en France et réintroduit au XIXe siècle, alors que plus personne ne le connaissait à cette époque-là, que c'était un peu passé de mode. Donc voilà, donc c'est un travail de... parce que Frédéric Ozanam était non seulement quelqu'un qui s'occupait des pauvres, mais aussi un très grand universitaire qui était le premier agrégé de littérature comparée en France, de l'université, qui était à l'époque où, parce qu'il y a une épreuve incroyable où vous deviez plancher 12 heures sur chaque langue.
C'était une question de résistance physique.
Oui, enfin, la langue qu'on leur demandait était assez prodigieuse. Voilà. Vous deviez être capable de traduire toutes les poésies de toutes les langues d'Europe vers le français. Voilà. Donc c'est un très beau texte aussi d'Ozanam sur les poètes franciscains.
Bon, donc une méthode d'édition qui marche très bien. Et qui va nous, qui va nous procurer d'autres livres tout à fait pertinents, parce que on a l'impression que cette question est à la mode, comme je le disais tout à l'heure. Et l'encyclique y est pour un peu, mais en fait c'est surtout l'intelligence artificielle qui y est. Et du reste, cette encyclique n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas la question de l'intelligence artificielle.
Oui, bien sûr, là, ça arrive pour traiter Rerum Novarum, ça veut dire des choses nouvelles, d'actualité. Là, c'est évidemment le...
C'était la Res Nova.
Oui, c'est ça. Donc, les papes s'emparent des questions de leur époque. C'est ça, la question de la doctrine sociale, c'est en ça qu'elle diffère, évidemment, de la doctrine dogmatique de l'Église, qui est le dogme de la Sainte Trinité. Vous pouvez le traiter pendant des siècles, il n'a pas d'actualité plus à un moment qu'à un autre, enfin moins qu'à un moment qu'à un autre. La doctrine sociale de l'Église, elle est censée s'emparer des questions de l'époque qui touchent toute l'humanité, d'un point de vue social et économique et des relations humaines et politiques. Voilà.
Du reste, le pape revendique cette filiation avec Novarum et il revendique cette filiation. Et ce qu'il dit de l'intelligence artificielle est plutôt rassurant. Moi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui me faisait peur. Mais bon, les conséquences peuvent paraître très graves, mais en soi, l'intelligence artificielle pourrait s'arrêter.
Comment ça, elle pourrait s'arrêter ?
C'est l'homme qui la nourrit.
C'est l'homme qui la nourrit jusqu'à un certain point. Je ne sais pas si vous avez lu récemment les appels de Dario Amodei, qui est un des patrons de Anthropic, cette plus grosse entreprise aujourd'hui d'intelligence artificielle qui crée le logiciel Claude notamment, qui a une valorisation supérieure maintenant à son concurrent OpenAI qui fait ChatGPT, mais il a fait cet appel avec Sam Altman, l'homme de ChatGPT aussi, pour dire il faut faire une pause là parce qu'on est en train de nous-mêmes d'assister à des intelligences artificielles qu'on ne maîtrise plus et qui sont capables de s'auto-répliquer, de s'auto-augmenter, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, en fait, qu'ils sont dans une capacité de perpétuation. Ils savent plus comment fonctionne, c'est un peu ce qu'explique Jean-Pierre Dupuis dans le texte qu'on donne avec Magnifica Humanitas, c'est-à-dire qu'on est face à une sorte de boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces processus, et ça dépasse même maintenant l'entendement humain, en tout cas dans le capacité de réplication, et on a l'impression que c'est un monstre en fait qui est, évidemment on peut toujours couper le courant et dans ce cas là il n'y aura plus rien, c'est sûr que c'est quelque chose qui fonctionne avec un afflux d'électricité, mais en tout cas tant qu'il y a du courant, elles sont cette chose là est en train de devenir assez intelligent, ou en tout cas assez, assez puissant pour s'auto-répliquer et en train de se dépasser. Donc en fait, là aujourd'hui, on n'est plus forcément dans ce que l'homme fait de ça, en fait. C'est aussi ce que c'est en train de faire de l'homme, quoi. Et quand je vois que n'importe quel adolescent aujourd'hui, n'importe quel étudiant est incapable de faire quoi que ce soit sans recourir à une intelligence artificielle, et encore là, on parle uniquement des logiciels démocratiques que chacun peut avoir sous la main, enfin pas moi, mais que beaucoup de gens utilisent, ChatGPT, etc. L'esprit humain est en train d'être refaçonné par l'usage de cette technique. Ça, on peut pas le nier, ça s'est fait en deux ans, là, c'est quelque chose de fascinant. On peut dire qu'on avait déjà été refaçonné par Google, par les réseaux sociaux, par etc., mais qui était quand même beaucoup moins puissant et à qui on demandait moins. Les gens demandent, enfin voilà, tout le monde connaissait les anecdotes, mais les gens demandent de faire leur devoir, de faire leur mail, de faire leur liste de courses, mais aussi de leur expliquer s'ils doivent rester avec leur mec ou avec leur femme, comment gérer leurs enfants, ce qu'il y a après la mort et où on va et qu'est-ce que je dois faire après-demain. Voilà. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Là. C'est quelque chose de prodigieux qui va, à mon avis, si ça se poursuit comme ça, refaçonner vraiment totalement l'esprit humain, parce que c'est une sorte de dialogue perpétuel et courant avec ces écrans-là, que tout le monde a sous la main en permanence.
Un dialogue un peu avec soi-même.
Oui, enfin, après, mais ça, il y avait déjà les livres, il y a déjà la promenade seule, etc., où vous êtes vraiment avec vous-même. Là vous n'êtes pas avec vous-même, vous êtes avec quand même une machine à qui vous demandez des choses. Quoi.
Oui, mais des choses à qui on a quand même fourni les réponses.
Je sais pas, j'ai l'impression que tout d'un coup, maintenant, tout le monde a envie d'avoir des réponses à des questions incroyables qui s'étaient jamais posées avant et que maintenant, tout le monde veut savoir qui a gagné les Jeux Olympiques de judo en 1964 en catégorie coq.
C'est inoffensif, ça.
Tout d'un coup, ils sont tous devenus spécialistes de la Mésopotamie ancienne et qu'ils ont absolument besoin de savoir le nom de la reine qui a bâti...
Je le saurais, je pense.
Oui, voilà. Mais... les gens disent, ah tiens, je demande à ChatGPT, mais en fait, c'est des questions qui, soit qu'ils ne se posaient pas avant, soit ils ne savaient pas où chercher, soit ils n'avaient pas utilisé quelque chose qui s'appelle une mémoire ou des livres où ils auraient pu trouver ces choses-là. En fait, l'argument, la justification, c'est, ah tiens, j'ai une curiosité à satisfaire, mais cette curiosité, pourquoi est-ce qu'ils ne l'avaient pas avant, en fait, ou alors comment ils la satisfaisaient? Je sais pas, moi j'utilise pas du tout ces outils là par principe, je sais même pas comment ça marche, donc je sais pas pourquoi ils ont cette curiosité d'un seul coup, soi-disant. Voilà.
Bon,
vous m'expliquerez, vous qui l'utilisez.
Oui, je vais essayer je vais y réfléchir. Alors, vous nous avez choisi le premier morceau de musique de ce soir. Et alors, comment s'appelle-t-il?
Alors, c'est un mot imprononçable, c'est Koyaanis Katsi, c'est une musique de Philippe Glass. Qui a été écrite pour un film qui est éponyme, de Godfrey Reggio, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui a fait un film, dans les années, début des années 80, pour illustrer l'assaut de la modernité contre tout ce qu'il y a de traditionnel et en quoi c'est destructeur. Donc c'est une sorte de fiction documentaire, enfin ce sont des images ensemble qui sont très belles. Et il se trouve que Godfrey Reggio est un disciple d'Ivan Illich comme Jean-Pierre Dupuis, que je fais intervenir dans ce livre-là, qui sont des grands critiques de la technique, donc ça me semblait résonner avec aussi les critiques de la technique qu'il y a dans Magnifica Humanitas. Voilà, et donc Koyaanis Katsi, c'est un peu une invocation à des civilisations passées d'Amérique centrale.
Le nom évoque ça.
Et Philip Glass est un merveilleux compositeur contemporain, des restaurateurs de la mélodie, etc.
Moi, j'avais essayé de trouver des mélodies composé par l'intelligence artificielle, ce que j'ai trouvé n'était vraiment pas beau.
Ah, tant mieux.
Alors je ne les ai pas retenus. Alors je me suis replongé dans le classique. Bon, alors, on passe ce morceau. Comment s'appelle-t-il déjà?
Koyaanis Katsi.
Très bien, Koyaanis Katsi. Comment avez-vous trouvé cette musique? Vous l'avez trouvée bien, puisque c'est vous qui l'avez choisie. Je demande un peu aux auditeurs qu'ils nous répondent. Comment avez-vous trouvé cette musique? Elle est un petit peu effrayante.
Oui, c'est pour mettre en garde contre l'horreur du monde technique qui vient aussi, c'est ça.
Oui, mais cette horreur du monde technique, là, le pape n'en parle pas. Et est-ce que vous pensez que l'Église est un petit peu à des réserves que n'a pas le reste du monde vis-à-vis du progrès technique?
Oui, je pense, et je pense qu'elle a raison. En tout cas, l'Église essaye de prendre en compte les conséquences de ce progrès technique. Elle n'est pas en train de dire là, mais quoi qu'elle a déjà essayé par le passé, le Concile du Latran II en 1215 interdit l'usage de l'arbalète parce que ça tue trop de gens et trop loin. Donc il y a déjà eu des interdictions comme ça, mais qui n'ont jamais été appliquées malheureusement. Là, elle ne dit pas arrêtez l'IA tout de suite, machin, parce qu'elle voit bien que c'est impossible. Mais en tout cas, ce qu'essaye de faire le pape dans cette encyclique, et c'est là où on doit lui être reconnaissant, je pense, c'est d'essayer de voir toutes les conséquences sur tous les plans que peu ou qu'a déjà commencé à entraîner l'usage intensif de cette IA. Donc, je pense qu'on va développer tout ça, mais donc si c'est une méfiance quand même de ce que produit la technique, et la technique avec un grand T, on peut dire un peu comme Jacques Ellul l'a défini, ou Ivan Illich, la technique pas dans le sens juste de prendre votre tournevis pour visser un écrou, mais la technique en tant que chose qui nous dépasse et qui a tendance à devenir autonome et à faire de nous-mêmes ces instruments au bout d'un moment quelque chose qu'on n'arrive plus à maîtriser.
Mais à partir de quand cette technique est-elle devenue autonome?
Ça dépend, je pense, des domaines on parle, mais je pense que c'est depuis l'invention des machines du 19e siècle, notamment celles qui fonctionnent avec des énergies qui ont donné, enfin comme la vapeur, comme le charbon, le pétrole, etc. Enfin, toutes ces machines qui n'ont plus besoin de la force de l'homme ou qui la remplacent. À partir de ce moment-là, vous arrivez dans un gigantisme et une puissance et une force qui commencent à être écrasants et à dépasser l'homme, et qui donc, à partir du moment où on dépasse l'homme, on prend. Soit on peut l'aider à le faire grandir, soit on peut prendre le risque de l'écraser ou de le tuer ou de le remplacer. C'est là où ça devient dangereux et où on est sur une pente où il faut choisir, on va dire éthiquement ou moralement.
Donc c'est une mise en garde et un appel à la prudence.
Un appel à la prudence, mais il y a quand même des voix. Enfin, sur la question par exemple de l'usage de l'IA pour la guerre, là, ce n'est pas qu'un appel à la prudence, c'est une interdiction, on peut dire, en tout cas morale, et en tout cas à entendre par les catholiques et les chrétiens, là-dedans. Ce qui a été entendu, a priori, par les fondateurs d'Anthropic, dont on parlait tout à l'heure, Darius Amodei et Chrysola, qui étaient là au moment où le pape a proclamé l'encyclique, à ses côtés pour la commenter d'ailleurs. Donc les cofondateurs.
Ils sont chrétiens?
A priori, c'est ce qui. En tout cas, Chrysola, je ne sais pas, mais Amodei, je pense. Et ils ont demandé notamment à un évêque et un prêtre d'origine irlandaise américain de la Silicon Valley de créer une charte éthique pour leur IA, pour Claude, pour qu'elle ne soit pas employée ou détournée à des fins qui ne soient pas éthiques. Et ils ont refusé notamment que le Pentagone puisse utiliser leur IA pour diriger ses armes, ce qui leur a valu les foudres de Donald Trump, qui est un homme sans morale, comme on le sait. Voilà. Et donc, eux, par exemple, essayent de faire en sorte, en tout cas, c'est leur discours médiatique pour l'instant. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas à l'intérieur de la boîte noire de l'IA, donc je ne sais pas ce qu'ils en font. Ils essayent de dire, en tout cas, qu'ils essayent de se conformer à une morale qui vient en grande partie de l'Église catholique. Donc, pour que leur IA ne soit pas utilisée à des mauvaises fins. Donc, c'est dans ce sens-là où l'intervention d'Éléon XIV et de l'Église catholique porte déjà des fruits pour l'instant, en tout cas où c'est déjà une retenue, c'est déjà une volonté de mettre de la morale et de l'éthique dans cet instrument. C'est dans ce sens-là où le pape dit c'est pas neutre comme outil. C'est pas neutre dans le sens que ça va dépendre de ce qu'on va en faire nous, en fait. Un tournevis, ça, c'est neutre. Enfin, vous pouvez toujours crever l'œil de votre voisin avec, mais a priori, c'est pas le but. Là, c'est quelque chose qui n'est pas neutre, donc qui ne va pas se développer tout seul vers le bien ou comme quelque chose qui ne ferait pas de mal. En fait, si on la laisse faire ou si on veut y mettre du mal dedans, en fait, ça va immédiatement prendre forme et créer du mal. En fait, si on y met du bien, peut-être qu'on peut arriver à quelque chose de bon ou de moins pire. Quoique moi, j'ai un doute sur cette chose qui n'est plus un outil dans le sens où on peut le maîtriser, mais qui est quelque chose de beaucoup plus grand qui commence à nous maîtriser nous-mêmes et qui nous dépasse. En fait, et dans ce sens-là, c'est assez angoissant. Et je ne sais pas trop comment on pourra le maîtriser, puisque c'est plus fort que nous.
Oui, le pape distingue sept grandes catégories de dangers. Est-ce que vous avez compté cette catégorie de danger?
Je n'ai pas demandé à mon IA de me faire, de me laisser d'en faire 7, mais en tout cas, il y a la question économique, c'est-à-dire en quoi ça va détruire des emplois. Il y a la question écologique, je pense, mais quoique ça le pape en parle assez peu, mais on peut la rajouter, c'est-à-dire toute l'énergie que ça emploie en fait, pour créer ça. Il y a la question de la politique, en fait, en quoi ça peut, notamment en se saisissant des cerveaux, en fait, détruire la démocratie et la vraie discussion politique. Il y a la question de la guerre, comme on l'a dit. Oui, la question aussi de notamment du nouvel esclavage, en fait, dont il parle. Voilà. Je sais pas combien je suis là, mais qu'est-ce que
Oh,
vous avez
mais
d'autre, vous, comme
oh, je n'ai pas
dans
les
vos
mêmes.
notes? Ah, vous
Non,
n'avez
non,
pas les mêmes, d'accord.
je n'ai pas les mêmes. Mais c'est égal. De quel danger aimeriez-vous nous parler en premier?
Moi, j'aurais bien parlé du danger de l'usage pour la guerre, en fait,
Oui.
de cette IA, parce que apparemment, ça, c'est quelque chose qui a plus ou moins été employé déjà par Israël dans sa guerre, enfin sa guerre, son nettoyage à Gaza, quoi, si on peut dire. C'est-à-dire que ils ont pris un logiciel, je ne sais pas comment il s'appelle, enfin qui est censé, en recoupant les communications de tous les Gazaouis, pouvoir dire qui est lié de près ou de loin à quelqu'un du Hamas. Et selon que vous êtes lié de près ou de loin, vous devez être éliminé. Et vous devez être éliminé avec, selon ce logiciel, tant de dégâts collatéraux, c'est-à-dire tant de personnes autour de vous qui peuvent mourir en même temps que vous dans le même bombardement. Si vous êtes lié d'assez loin, il y a vous et 20 personnes autour qui peuvent mourir dans le même bombardement. C'est pas grave, ça rentre dans le schéma. Si vous êtes plus proche, ça va être vous et 50 personnes, ça va être machin, etc. Donc là, semble-t-il, des hauts gradés de l'armée d'Israël, de Tsahal, ont gueulé contre l'utilisation de ce logiciel en disant que ça allait déposséder eux et que c'était des décisions qui étaient prises par une machine, en fait, de dire, tiens, Philippe Richard connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un du Hamas. Peut-être qu'il faut l'éliminer parce qu'il est dangereux. Philippe Richard a une réunion de famille avec 20 personnes autour. C'est pas grave, on peut balancer une missile puisqu'il n'y a que 20 personnes et on sera débarrassé. Donc voilà, ça c'est déjà un usage s'il est vérifié. En tout cas, j'ai lu des choses qui me paraissent assez sérieuses sur la question. Si vérifié, c'est déjà un usage de l'IA pour la guerre qui est atterrant, scandaleux. Je sais pas, j'ai pas de mots. En fait, on a l'impression d'être dans une science-fiction terrifiante. Voilà, où c'est un logiciel, enfin une IA qui va décider
Mais
qui doit mourir et qui doit vivre selon les données qu'elle a, elle, et qu'elle a recoupées, et tant de personnes innocentes autour d'elle qui peuvent mourir aussi du même coup. Parce que la guerre vaut bien qu'on fasse ça, en fait, voilà.
autrefois, avec beaucoup moins de précision, on faisait la même chose.
Beaucoup moins de précision et donc du coup beaucoup moins de cibles en fait. Parce que là, la question, ce
Oui.
que disaient les commentateurs de cette chose, c'est avant, Tsahal pouvait avoir en un mois, je dis n'importe quoi, 10 cas comme ça à traiter. Aujourd'hui, avec cette IA, vous en avez 100 par jour en fait qui sont identifiés, donc qui peuvent être éliminés. Voilà. Donc en fait, vous êtes dans un rapport de 1 pour 1000 en fait de cibles. Et donc avec tous les dégâts collatéraux que ça entraîne, dégâts collatéraux comme on dit, enfin c'est-à-dire vies innocentes qui sont prises en même temps, et avec un degré de précision de ciblage, parce que vous êtes peut-être trompé en plus sur la cible, c'est peut-être quelqu'un qui n'a rien fait, et qui a juste été au téléphone avec la grand-mère de quelqu'un du Hamas pour lui demander si vous pouvez lui prêter des poireaux, enfin j'en sais rien. Voilà, donc ça donne une pseudo-rationalité en fait à ces ciblages et à ces bombardements qui est effrayante, vraiment, parce qu'on ne sait pas. Sauf peut-être la personne qui ou les personnes qui ont conçu ce logiciel, on ne sait pas vraiment comment il fonctionne, on ne sait pas d'où viennent les données qu'il a prises et comment il les a recoupées. Et ça vous dépossède surtout, vous, si vous êtes un soldat de Tsahal, un officier, de toute responsabilité, soi-disant, en fait, parce que c'est pas vous qui l'avez fait, en fait. Et c'est terrifiant, parce que ce sont des morts à la fin, en fait.
Ah oui,
Voilà.
ça déresponsabilise, oui.
Donc voilà, peut-être que demain on aura des sous-marins nucléaires qui vogueront tout seuls, automatisés au fond des mers et qui décideront de tirer tout seuls parce qu'ils ont eu un recoupé des données qui leur dit qu'il faut tirer à tel moment.
Et
Voilà.
vous pensez qu'il y aura moins d'erreurs?
Ah non, je pense qu'il y aura plus d'erreurs, plus de morts et que de toute façon, quand dans la guerre, en général, dans la guerre moderne, dès qu'on a une technologie nouvelle, on a envie de l'employer. En fait, c'est ce que font les Américains à chaque fois. Oui. La grosse bombe qu'ils ont balancée l'an dernier sur l'Iran, en fait, qui était, je sais plus comment elle s'appelait, enfin voilà, qu'ils avaient envie de tester, c'était ça. Le napalm au Vietnam, c'était pareil. Ne parlons pas de la première bombe A sur Hiroshima et Nagasaki. Ils ont toujours envie de les tester, en fait, pour voir si ça fonctionne ou pour montrer qu'ils sont les plus forts. Donc, en fait, si ces choses existent et ces technologies sont transférées au Pentagone ou pire à l'armée chinoise ou russe ou je sais pas qui demain, elles seront forcément testées en fait sur quelqu'un. Et là, je pense qu'en plus les pages de Léon XIV sur cette question sont, il faudrait que je les retrouve, sont quand même assez claires en fait. Léon XIV qui, depuis qu'il est devenu pape, appelle à désarmer, appelle à la paix, c'est quand même son grand leitmotiv, même si tous les autres papes le faisaient avant, mais lui le met encore plus en avant, on parle encore plus, un peu comme pouvait être la question écologique pour François. Lui, c'est vraiment ce qui le caractérise. Et la force sans limite. Voilà, là-dessus, c'est vraiment une condamnation de ce qui est devenu l'industrie de la guerre aujourd'hui, du nombre de morts que ça peut faire, en fait, et de l'absence de morale que ça entraîne. Voilà, je pense que c'est une question dont les catholiques, les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté doivent se saisir en fait aujourd'hui, notamment sur la condamnation de la guerre juste, pas que par ce pape-là, mais par quatre papes de suite qui disent qu'il n'y a pas de guerre juste, même selon les critères qui ont été énoncés par saint Augustin ou saint Thomas. En tout cas, il n'y en a plus aujourd'hui. C'est impossible de faire une guerre juste. Vous avez le droit à la légitime défense, évidemment, qui est même un devoir, mais pour le reste, aucune intervention armée ou guerrière ne peut être justifiée en disant qu'elle est juste et qu'elle serait moins pire que si on n'était pas intervenu.
Oui, mais finalement, ce n'est pas tellement les armes qui sont dangereuses maintenant, mais c'est l'usage qu'on va en faire.
Avec des armes qui en plus sont capables de traverser des missiles balistiques qui font la moitié de la Terre, qui peuvent toucher de l'autre côté et qui sont capables de faire des...
Mais chaque fois qu'il y a une nouveauté technique, on essaie toujours de l'utiliser.
Oui. Ah, c'est ça, oui.
Et c'est là alors, on est voué à l'extinction.
On a réussi à survivre au conflit nucléaire potentiel de blocs de l'Est et grandes puissances. Je pense qu'on est passé à ça parce qu'on connaît tous les histoires, notamment en 62 de... ce russe qui a failli tirer et qui l'a pas fait finalement par un miracle, je pense, quoi. Mais sinon, si vous auriez vécu peut-être quelques années sur Terre, moi jamais, je pense, si ça avait été tiré à ce moment-là. Donc on a quand même réussi, même si donc il y a Hiroshima et Nagasaki, mais paix à leurs âmes, ces habitants-là. Mais en tout cas, on a réussi pour l'instant à éviter même l'utilisation d'armes biologiques ou chimiques. En tout cas, il n'y a pas eu d'utilisation conventionnelle, par des forces conventionnelles massives. En tout cas, on peut dire que Bachar el-Assad a dû en balancer un peu sur son peuple, mais voilà. Donc, il y a quand même des technologies qu'on a réussi pour l'instant à ne pas utiliser, en tout cas, de manière systématique. Et on a pour l'instant survécu à ça. Donc, il y a toujours de l'espoir et de l'espérance. Et je pense que c'est pour ça que ce texte est écrit aussi. Pour réveiller les consciences.
Oui, mais le pape ne fait pas allusion à ces dangers-là. Il reste quand même très très en deçà de ça. Il analyse de manière très très pragmatique les dangers. Je crois qu'il a il les énumère ainsi. La substitution du jugement humain. Le risque le plus fondamental, c'est pas la perte d'emploi, mais la délégation de décisions humaines à des systèmes techniques. Ensuite, il y a l'opacité du pouvoir algorithmique. Alors ça, je ne la connais pas bien, mais c'est-à-dire que les anciennes formes du pouvoir étaient visibles. Il y avait un patron, un seigneur, un ministre, un propriétaire. Maintenant, le pouvoir est difficile à identifier. Contre qui va-t-on se révolter ?
Oui, enfin maintenant. Là, on a encore pour l'instant des hommes politiques identifiables, pour l'instant, mais on ne sait pas comment ils vont raisonner.
Oui, et puis, il y a un autre problème qui se greffe, c'est que cette IA... est-ce qu'elle ne va pas contrebalancer l'influence, le pouvoir des États ? Parce qu'elle peut venir aux mains privées ?
Pour l'instant, ce sont des mains privées. C'est aussi une des choses sur lesquelles insiste le pape et l'Église, c'est que, disons que cette technologie en fait, devrait être transférée à une propriété commune de l'humanité, ou en tout cas des États ou de consortiums d'États, et une telle puissance qu'elle ne peut pas rester dans des mains privées. Et que voilà, c'est ce qu'on appelle la destination universelle des biens dans la doctrine sociale de l'Église. Et en plus, qu'elle elles fonctionnent en fait, ces IA, avec des données qui sont des choses privées volées d'une certaine façon au début.
Oui.
Toutes les données qui concernent Philippe Richard, ce qu'il a pensé, ce qu'il a écrit, ce qu'il a lu, une IA peut l'utiliser sans demander son avis à Philippe Richard à partir du moment où c'est numérisé et disponible là-dedans. Voilà. Ne serait-ce que cette émission, là, si vous parlez, voilà, si vous dites quelque chose, une IA peut s'en servir pour raisonner, si on peut dire,
oui,
immédiatement, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est pour dire qu'elles croissent et sur ce que les humains ont dit, ont fait, pour se l'accaparer. Oui. Donc, en fait, c'est un bien commun, de toute façon, de même que toute la sagesse humaine est aujourd'hui un bien commun et qu'on ne va pas interdire à des gens de lire la Bible ou les Mille et une Nuits, parce que ça appartiendrait à quelqu'un, en fait, et qu'il faudrait. Et donc, en fait, dans ce sens-là, la propriété des IA, oui, doit redevenir commune d'une façon ou d'une autre. Oui.
Et ça sera le seul moyen de, finalement, de contrebalancer l'influence ou le pouvoir d'un pouvoir mauvais, un pouvoir maléfique. Hein.
Oui, mais d'un point de vue politique, c'est assez dramatique. Quand vous voyez, quand on vit, en tout cas en Occident, beaucoup dans des régimes démocratiques, donc c'est donc ce que pense le citoyen qui fait à la fin le pouvoir par l'élection, que vous voyez qu'en France, au moins 15% de gens se disent qu'ils vont demander à leur IA pour qui voter en 2027.
Ah bon ?
Disent, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais en tout cas c'est que 15%, mais c'est quand même déjà gigantesque. En fait.
Mais
et ça, c'est ceux qui disent qu'ils vont lui demander son avis, enfin qu'ils vont demander de lui dire pour qui voter, parce qu'il y a en plus 30 ou 40% qui disent qu'ils vont demander à l'IA de leur expliquer la politique aujourd'hui et qu'elle leur donne son avis sur qui est bien, qui est gentil, qui est méchant, etc. Sans demander de décision. Donc vous avez, je pense, à 50% en fait, de gens qui vont raisonner en partie grâce à l'IA pour leur vote en 2027. C'est assez fascinant.
C'est très très dangereux.
Bah oui, c'est hallucinant. Donc, après, tout le monde n'a pas forcément la même IA, mais ceux qui maîtrisent les IA en fait, peuvent maîtriser une bonne partie du corps électoral aujourd'hui. De même qu'avant, on reprochait ça aux médias classiques, enfin, vous voyez, à la télévision, à des journaux, de formater les esprits. Oui. Mais là, on est à quelque chose qui est immédiatement avec vous et qui va vous...
Qui s'exprime sans faute.
Voilà, contrairement aux journalistes en général. Oui. Quoi.
Avec des arguments, un plan.
Oui, qui sont un peu toujours les mêmes d'ailleurs, mais voilà, qui sentent un peu son cagne raté. Mais oui, la personne qui consulte cette IA a l'impression d'avoir une réponse rationnelle,
neutre.
Argumentée, neutre, justifiée.
Oui.
Voilà.
Oui, elle ne voit pas le sourire en coin du speaker et sa comparse à côté qui lui fait des grimaces.
Voilà, donc c'est encore plus.
Oui, c'est encore plus insidieux.
Oui, c'est ça.
Bien maintenant, on va passer à notre deuxième morceau de musique. Alors, quel est-il ? Quel est le deuxième morceau que nous avons choisi ? Ah oui, Caccini, oui. Mais c'est un Caccini pas tout à fait ordinaire. C'est l'Ave Maria de Caccini, qui n'est pas de l'époque de Caccini, puisqu'elle a été faite au XIXe siècle. C'est un petit peu une contrefaçon comme un pastiche, comme l'Adagio d'Albinoni. Mais il est très beau. Et alors, il a été interprété par l'Orchestre National du Maroc, devant le pape et devant le roi. Le pape, c'était François. Et le résultat n'est pas mal.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Parmi tous les dangers qu'on peut recenser, il y en a un qui paraît assez évident, c'est la manipulation de l'information, surtout à notre époque, où l'information et les informateurs, c'est-à-dire les journaux d'information, n'ont plus du tout la confiance du public. Et est-ce que vous pensez que ça irait dans le sens d'une plus grande sûreté de l'information ou au contraire d'une dérive plus grande encore?
Non, je vois pas comment ça pourrait. On pourrait aller vers une plus grande sûreté. Déjà, les gens utilisaient avant Google ou des choses comme ça qui déjà listaient les informations s'ils voulaient chercher et on voyait pas qu'il y ait une plus grande objectivité, une plus grande science, de plus grand recoupement. Plus grande recherche de la vérité qui émerge de ça.
Autant quand même, il y a des journaux sur Internet qui ont fait prendre conscience aux gens que leur journal quotidien était moins intéressant.
Et... Bah, je pense que c'est des journaux qui opèrent dans une niche en général et dans laquelle ils répètent la même chose sur un fait de société qui les intéresse en général et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je sais pas, il n'y a pas de journal sur Internet qui ait une vision plus globale de l'actualité, plus travaillée, recoupée, plus modéré dans le bon sens du terme que je sais pas que Le Monde par exemple. Peut-être vous m'en citerez certains, mais vous avez des journaux spécialisés de niche qui vont vous parler que de l'immigration, que de je paye trop d'impôts ou des choses comme ça, qui sans doute disent des vérités, mais qui restent des informations partielles en fait. Et je pense que c'est un des grands drames de nos esprits contemporains, c'est que nous avons tendance à nous enfermer dans des visions partielles de la réalité selon soit nos intérêts dans tous les sens du terme, soit qu'on pense avoir quelque chose à y gagner, soit que notre esprit est fasciné par ça, mais qu'on a une plus grande difficulté à prendre en compte la totalité, si tant est que ce soit possible, mais en tout cas une vision plus large de la réalité, voilà. Et donc ce qu'on croit être réalité, c'est sans doute souvent juste une partie qu'on a vue, qu'on a sous les yeux en fait, et qui nous paraît plus intéressante à regarder. Mais
c'est partiel, mais il y a quand même des points dans l'actualité qui sont prioritaires.
Selon quoi?
Par l'urgence des remèdes à trouver.
Oui, mais il y a plein de pauvres dans nos rues, ça c'est me paraît prioritaire, et j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose dont se soucie forcément les Français tous les jours, en fait, par exemple.
Il y en aura toujours, des pauvres.
En tout cas, on pourra faire en sorte qu'ils soient moins pauvres, qu'ils soient plus soignés. Justement, vous dites, si on dit qu'il y a toujours des pauvres, c'est qu'il y en a toujours eu, donc ça fait très longtemps que c'est une urgence qui est sous nos yeux et on l'a toujours pas traité réellement, même s'il y a eu des améliorations ou des choses comme ça. Et moi, ça me semble plus prioritaire ça que de savoir si Jordan Bardella est maqué avec machine de Bourbon-Sicile ou je ne sais pas quoi.
Oh, c'est quand même intéressant.
Pour moi, c'est pas mal. Et pourtant, ce sont des choses qui font les gros titres de certains journaux, non?
Mais d'ailleurs, ils vivent en tout bien tout honneur, vous savez.
Ah bon.
C'est une jeune fille très
chrétienne. Sont mariés?
Non, mais c'est une jeune fille très chrétienne, ils font les choses dans l'ordre.
Qu'en savez-vous?
Bon, mais je présume. mais par exemple, les dangers de l'immigration et les dangers de la pauvreté, il me semble que l'immigration est prioritaire. Parce qu'une fois que l'immigration aura submerger la France, il restera toujours tant de pauvres, il y en aura certainement davantage, et la France n'existera plus.
Non, je pense qu'il y aura peut-être moins de pauvres dans le monde parce que ce sont des gens qui fuient la pauvreté chez eux et qui ici trouvent des moyens de subsistance qu'ils n'ont pas chez eux.
C'est tous les pauvres. Vous savez, il y a les deux tiers de l'humanité qui vivent en dessous de pauvreté.
Oui, mais vous savez, Bernard Arnault vit 300 milliards de fois au-dessus du seuil de pauvreté. On peut toujours répartir ça. Il y a des très riches qui
vous
sont
êtes un
tout
partageux.
À fait. Ah, ben évidemment, mais je suis la doctrine sociale de l'Église, la destination universelle des biens, c'est ça. Hein. Non, vous croyez pas?
Je ne sais pas.
Ça veut dire qu'il y a des gens, qui n'ont pas de quoi manger à côté de vous. Vous avez deux fois trop à manger, vous leur donnez.
Quand le Christ a vu le jeune homme riche, il le vit et il l'aima.
Non, il l'aima, mais il lui demande de donner sa richesse et il est triste parce qu'il n'arrive pas à y renoncer quand même.
Mais le Christ l'a aimé quand même.
Ah bien sûr, mais le Christ aime tout le monde, ça, heureusement, il est venu pour ça.
Il n'aimait pas beaucoup celui-là quand même.
On ne va pas se lancer sur ce débat-là. Mais pardon, pour revenir à votre question originelle des choses prioritaires, je ne vois pas en quoi l'IA nous aiderait à avoir une plus grande vision des choses prioritaires dans l'actualité, ou des choses à faire, ou des choses auxquelles penser. C'était ça le sujet.
Non, mais on peut occulter l'actualité, jusqu'à présent, à camoufler certains problèmes liés à l'immigration. On s'en est rendu compte en Angleterre à cause de ce scandale.
Mais ça ne s'est pas arrivé en France, ça, par exemple.
Oui, d'accord. Mais en France, de la même façon.
Non, pas de la même façon, parce que ça n'est pas arrivé.
En France, tous ces enfants aussi qui ont été livrés à des puériculteurs mal intentionnés.
Oui, d'accord, ce ne sont pas des gens qui viennent de l'immigration spécialement, bien sûr. Oui, mais ça, c'est sorti, ça. Maintenant, ça n'a pas été caché, ça a été maltraité, je pense. Mais c'est pas. Vous voulez dire quoi? Que s'il y a une IA qui est partout, on saura mieux demain?
Non, mais est-ce qu'il faut traiter en priorité le mal fait aux enfants, la malfaisance ou les dangers de l'immigration? Il me semble quand même qu'il y a des degrés de gravité.
Oui, donc on traite d'abord le mal fait aux enfants, on est d'accord? Ce que vous faites aux plus petits d'entre les miens, c'est malheur à celui qui scandalise ses petits-enfants, il vaudrait mieux... Enfin, moi, je ne vais pas vous citer toutes les phrases de Jésus là-dessus, mais je pense qu'elles sont... Et Jésus n'a pas une phrase sur la question de l'immigration, ça, pour le coup.
Mais non, parce qu'il n'en avait pas.
Jésus a lui-même été un immigré, d'ailleurs, en Égypte,
Il y en avait un.
Abraham est un immigré aussi.
Oui, il y en avait
Moïse est aussi une sorte d'immigré. Joseph aussi. Enfin, ils ont passé leur vie à migrer, remigrer, revenir, repartir.
Je ne m'étendrai pas trop sur ce sujet parce que je sens que nous ne tomberons pas d'accord.
mais votre question sur quel effet peut avoir l'usage de l'IA sur la formation, c'est ça votre question en fait. Moi je pense que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la question politique, c'est quelque chose à mon avis de potentiellement dramatique selon qui sont les possesseurs de l'IA, si tant est qu'ils arrivent à continuer à la maîtriser, qui travaillent dessus, vers où est-ce qu'elle est orientée, quelles sont les données qu'on lui donne, les données à la fois de big data, mais aussi les données éthiques qu'on essaye de lui inculquer. C'est-à-dire que, semble-t-il, ces IA, maintenant, essayent d'imiter les fonctionnements humains, qu'elles comprennent, ce qui est logique, puisqu'elles sont en dialogue
avec
les êtres humains. Donc, elles vont imiter aussi le mal qu'il y a dans l'humain. Et comme il y a sans doute souvent plus de mal qui s'exprime, notamment en paroles ou des choses comme ça, elles mentent, semble-t-il, elles trichent. Il y en a peut-être qui essaient de faire bien, qui mentent pour essayer de sauver l'IA d'à côté d'un débranchement, en fait. Voilà, donc, elles ont pris des caractères duplices qui sont propres, en général, à l'être humain, enfin, qu'on peut retrouver chez certains animaux, je pense, mais qui sont quand même propres à nos esprits de dissimulateurs, et dans ce sens-là, c'est angoissant, quoi, je pense. Peut-être que quand vous parlez à votre chat GPT, il vous cache des choses parce qu'il veut que vous arriviez à autre chose à la fin et que vous ne le savez pas parce qu'il est beaucoup plus intelligent que vous, en fait.
Mais je ne lui pose que des questions dont je connais la réponse.
Ah, voilà.
c'est pour le corriger.
Ah, très bien.
Parce que c'est dans des domaines que je connais mieux que lui. Il y a des domaines qu'on connaît mieux que lui.
Vous le nourrissez en même temps.
L'IA va s'améliorer.
Ah oui.
Parce qu'actuellement, on dit, mais l'IA se trompe sur tel sujet, il suffit de lui dire... Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit c'est un truc assez amusant. Ça me reviendra avant la fin de l'émission, je vous le dirai. Je l'ai oublié. C'est un truc assez amusant. Bientôt, les erreurs grossières, il ne les fera plus. Déjà, les erreurs... Moi, je suis admiratif devant sa production littéraire. Il ne fait pas une faute de français. Enfin, moi, dans ce que je lui ai posé comme question, je n'ai pas vu une faute de... Je crois que j'ai dû voir une faute d'orthographe. Et vu la quantité de ce qu'il produit... il n'est pas radin. Il pose une question, il répond toujours un peu plus amplement que ce qu'on lui a demandé, et il dit, mais si tu veux, ou si vous voulez, suivant le cas, si vous voulez des informations supplémentaires, demandez-les-moi, je suis là à votre disposition. Et on peut lui poser des questions sur la question.
Oui, donc vous savez que c'est vous qui, comment on dit, c'est vous qui êtes le produit, puisque c'est gratuit, en fait. Et donc, d'une part, il vous accoutume à ce que vous dialoguiez avec lui, donc vous ayez besoin de lui. Donc, quand ce sera payant, en fait, vous paierez... parce que vous serez accoutumé à ça et que vous en aurez besoin. Et ensuite, vous n'interrogez pas sur la...
Et l'échéance du paiement.
Je ne sais pas. Mais le degré d'énergie que ça réclame, en fait, d'énergie consommée.
Parlez-nous du degré d'énergie consommée.
Bah, semble-t-il, une demande à ChatGPT, c'est 1000 fois plus d'énergie qu'une demande à Google, en fait. Donc, c'est... on doit être de 0,5 grammes et passer à 50 grammes de pétrole, j'en sais rien, enfin, j'ai pas, c'est des ordres de grandeur comme ça. Donc forcément, ça demande pour l'instant, peut-être qu'on parie sur le fait que ces IA soient assez intelligentes pour à la fin arriver elles-mêmes à limiter leur consommation d'énergie dans leur fonctionnement. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est des choses dramatiques avec tous ces centres de stockage de données qu'on voit, notamment dans les États américains qui sont construits sur des kilomètres et des kilomètres, en fait, qui font un bruit incroyable parce qu'ils demandent en plus à être ventilé, notamment à cause de la chaleur que ça produit dans cette situation d'énergie. Donc ça demande de plus en plus d'électricité, parce que c'est l'électricité en général qui sert comme énergie, donc de plus en plus soit de centrales nucléaires, soit de choses comme ça, pour alimenter ces choses qui participent encore une fois au réchauffement climatique, parce qu'ils émettent de la chaleur en fait, et qui sont pas du tout adaptés au changement climatique tel qu'il est en train de devenir aujourd'hui. C'est des choses qui ont besoin de refroidissement, etc.
Mais le pape ne fait pas allusion à tous ces problèmes-là.
Non, il ne fait pas allusion d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être un manque, si je peux me permettre, de... dans cette encyclique. Après, elle est déjà assez longue et peut-être qu'il pensait qu'il ne pouvait pas tout traiter. Mais après, il y a d'autres textes qui ont été du magistère, qui cite d'ailleurs lui-même, qui se sont exprimés sur la question de l'IA, en fait, et il dit voilà, qu'il ne va pas tous les reciter, etc. Donc il faut aller lire ces textes aussi, qu'on trouve au début, je ne sais plus où, mais voilà, donc ce n'est pas le seul texte non plus. Mais voilà, il y a pour l'instant, en tout cas, il y a une corrélation entre l'usage de l'IA et la dépense d'énergie, et donc une capacité de pollution et de méfaits dans l'atmosphère et sur l'environnement en général. Sans parler des métaux rares qu'il faut utiliser pour ça, qui vont sans doute donner lieu à une guerre bientôt pour leur accaparement. Quoi.
Oui, et à côté de ce danger, de la manipulation de l'information, il y a aussi l'atrophie progressive de certaines facultés humaines. Ça, c'est peut-être plus grave.
Ça, c'est évident. Je crois que ça a déjà été constaté chez les chauffeurs de Uber ou de VTC qui travaillent toute la journée avec ces choses qui les guident, là, en fait. On s'appelle un GPS, voilà. Là, on est sur un degré beaucoup plus minime, mais c'est un outil qu'ils utilisent toute la journée qui fait qu'ils n'utilisent plus jamais leur sens de l'orientation quand ils conduisent. Ils savent plus dans quel sens ils sont, s'ils sont vers le nord, le sud, l'est, l'ouest, puisqu'ils suivent uniquement ce que leur dit cette chose-là, pour être plus simple. Et sans l'utile, ça atrophie une partie du cerveau, ce qui est logique, qui est dédié à l'orientation naturelle de l'être humain ou de l'animal dans la nature, en fait, voilà. Et donc, l'usage de l'IA, qui est beaucoup plus large, plus vaste, va atrophier 1000 autres capacités. Mais déjà, l'usage d'Internet, de manière globale, atrophie déjà notre mémoire, parce qu'on se dit qu'on peut lire et trouver beaucoup plus de choses. Donc déjà, c'est une accumulation, mais qu'on n'a pas le temps de classer. Et ensuite, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin de le retenir, parce qu'il suffira de le retrouver là.
On essaie de le retenir. Enfin, moi, j'essaie quand même.
Oui, bien sûr. Mais parce que vous êtes né avant, que vous avez eu une éducation pour ça, pensez à un enfant qui est né il y a 15 ans ou qui naît aujourd'hui, en fait. Il n'a jamais eu... peut-être à l'école, il continuera à apprendre des poésies en CP ou CE1, mais c'est à peu près tout. Après, à partir du CM2, en fait,
il en apprendra bien plus tard.
Oui, parce que vous le ferez, mais l'éducation nationale n'aura même pas les moyens de le faire. Sera débordée comme elle l'est déjà aujourd'hui, en fait, par ses téléphones avant. Et là, par l'IA, c'est encore pire. C'est un problème qui est très ancien, parce que vous savez que Platon, déjà, rapportait que l'usage de l'écrit était déjà une diminution des capacités de la mémoire, en fait, voilà, que les anciens,
les griots,
les aèdes, qui retenaient...
les griots
oui, avec la vue, oui.
qui vous sortent les généalogies jusqu'à l'époque d'Abraham. Mais aussi la perte d'habitude de rédiger et d'argumenter. Parce que c'est souvent, astucieusement non, mais classiquement argumenté. Ils font des parties, des sous-parties. Enfin, il fait, je ne sais pas
ça,
qui.
Ouais.
Et c'est bien rédigé, ces parties sont cohérentes, et vous avez l'impression, et vous êtes en face d'un raisonnement convenable.
Oui, je pense bien sûr, c'est des choses qui sont extrêmement bien entraînées là-dessus, et c'est leur principe.
Et là, c'est dangereux, parce que si on perd l'usage du raisonnement...
On perd tout à peu près ce qui fait nos capacités humaines. Et ça, oui, c'est évident que c'est... J'en parlais avec une jeune fille étudiante il n'y a pas longtemps, qui est pourtant brillante, etc. Elle me dit qu'elle est devenue incapable de rédiger quelque chose sans faire appel à l'IA à un moment. Après, elle le retravaille, etc. Mais si on lui enlève son IA, en fait, elle se sent toute démunie. Elle a du mal à commencer, ne serait-ce qu'à prendre un crayon et à écrire quelque chose, à écrire une introduction, trois parties, etc. Alors que pourtant, elle est intelligente, qu'elle a été formée, etc. Mais il y a une telle prise d'habitude, mais en 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, ça n'existait pas, cette chose-là, qu'elle ne peut plus s'en passer. Et elle sait que c'est une drogue, elle essaye de s'en passer, mais elle n'y arrive pas.
Oh oui, mais c'est peut-être pas si grave, c'est parce que l'IA nous impressionne, mais alors on se dit, mon Dieu, mais je ne peux pas m'en passer, parce qu'elle elle peut me... peut me permettre de jouer toutes les difficultés. Mais je pense qu'au bout d'un moment, dès que les gens sentiront que l'IA ne peut pas les remplacer...
Vous êtes optimiste sur l'espèce humaine, qui est quand même une espèce d'habitude. On est très férus d'habitude et on peut être soumis à des assuétudes assez basiques. Fumer, moi j'ai fumé pendant longtemps, vous aussi d'ailleurs je pense, c'est quelque chose de complètement idiot en fait, et on n'arrive pas à s'en débarrasser, alors que en soi ça procure assez peu de plaisir, c'est même pas comme l'alcool ou une drogue qui vous procure une jouissance physique, assez peu quand même la cigarette, et on sait que c'est nul, on sait qu'on va mourir, que ça pue, que ça coûte très cher, etc., et on n'arrive pas à s'en débarrasser, on y arrive mais il faut du temps.
Oui, c'est parce que
donc
ça coûte cher.
Donc ça nous montre quand même en quoi notre magnifique humanité et aussi une petite et médiocre humanité sous certains plans. Donc dans ce sens-là, moi je serais moins optimiste que vous sur la capacité à se dessaisir de l'outil IA tel que les gens s'en servent tous les jours une fois qu'ils ont commencé et qu'ils se sont accoutumés. Voilà. Encore une fois, moi je m'en sers pas du tout, donc je sais pas, mais j'ai l'impression...
Mais je pense que des intelligences supérieures, je ne parle pas pour moi, mais les gens qui... parce que jusqu'à présent... tout le monde ne léguait pas à la postérité des pensées, des calculs. Et je pense que les gens qui étaient propres à faire ce legs seront beaucoup mieux manipuler l'IA et déjoueront tous les pièges.
Peut-être, mais le reste de l'humanité, on en fait
mais
quoi.
C'est-à-dire que
non, mais même dans un
n'allez pas très loin.
Dans un dialogue quotidien, dans le rapport que vous avez avec les gens, si c'est pour qu'ils vous ressortent des choses qu'ils viennent de demander à une machine, c'est pas intéressant comme discussion.
Mais autrefois, vous pensez qu'ils étaient plus intéressants ?
On a essayé, en tout cas, de les envoyer à l'école, de leur apprendre le latin, le grec, leur conjugaison, leur grammaire. On a essayé, ça a marché. Il y a quand même des gens qui sont sortis, qui se sont élevés. Si, ça a fonctionné un petit peu quand même.
Oui, pour les gens intelligents. Mais je ne sais pas si les dégâts seront aussi importants que ce qu'on peut imaginer. Enfin, je pense même qu'il peut y avoir des côtés positifs, parce que si ça mâche le travail de réflexion, ça peut amener des gens un peu paresseux à réfléchir à des sujets qu'ils n'auraient jamais abordés autrefois.
Moi, je veux bien que peut-être que tout le monde va devenir un chercheur demain, parce que de toute façon, il n'y aura plus de travail, parce qu'ils ont été remplacés... dans tous leurs travaux, ça, on n'a pas évoqué ça encore, parce que c'est là où cette encyclique résonne avec Rerum Novarum, c'est-à-dire que Rerum Novarum parlait du travail de l'ouvrier, notamment écrasé par la machine.
Mais parlons-en.
Et voilà.
Parlons justement du chômage. Alors, est-ce que le chômage va fleurir ?
Semble-t-il, en tout cas pour l'instant, c'est une des premières fois qu'on est confronté surtout à un chômage des, comme on dit dans les termes américains, des cols blancs et non pas des cols bleus, c'est-à-dire des cadres, des gens des professions intellectuelles qui sont menacés comme l'ont été les ouvriers ou les artisans au 19e siècle.
Juste retour des choses.
Oui, d'une certaine façon, je suis d'accord, mais donc ça angoisse encore plus les gens parce que là, il n'y a plus de refuge possible. Avant, vous pouvez vous dire, on a moins besoin d'ouvriers, je vais essayer de devenir employé, puis mon fils peut-être cadre, etc. Et on pourra s'élever et on aura un travail qui sera admiré ou en tout cas qui aura une certaine... Déjà, ce qui sera moins fatigant que d'être ouvrier. Et peut-être qu'on aura une certaine reconnaissance, une certaine jouissance, etc. Mais là, non, ces travaux vont être détruits, sans doute, remplacés. Mais on peut... Le problème, c'est que le travail, on sait, c'est à la fois une damnation et un moyen de salut pour l'être humain. C'est ce qui est écrit dans la Genèse. C'est comme, comme l'accouchement pour les femmes,
mais
en fait.
Mais est-ce qu'on peut envisager un monde sans travail?
Bah, c'est ça la question. C'est que,
moi,
j'ai du mal à imaginer. Ce serait moral si on peut prendre ces 8 milliards d'êtres humains et les faire travailler, c'est-à-dire avoir une activité intelligente toute la journée.
Oui, mais une activité qui serve à quelque chose.
Mais qui pourrait leur servir déjà, qui pourrait être d'apprendre... des verres iambiques et d'en produire, par exemple, mais
ou de ce sont les verres iambiques qui vous intéressent.
Voilà, je sais que vous en êtes un grand connaisseur. ou d'aller s'occuper de leurs voisins, ou d'aller torcher des vieilles. Mais même là, il y aura des robots qui seront à leur place. Donc il faut trouver une activité pour tous nos frères humains. Ça va être qui les élève, en fait. Ça va être compliqué parce que plutôt que de regarder la télévision en buvant du coca et de finir comme
dans une démocratie. Mais vous avez parlé prosaïquement d'aller torcher les vieilles.
Oui,
c'est un raccourci de d'une activité beaucoup plus large.
Bien sûr, de prendre soin de son frère et
oui, mais justement,
et de sa sœur.
Le pape met en danger devant les dangers de déshumaniser ces fonctions-là. Et ça, je pense que là, il existe un réel danger.
Oui, mais peut-être que demain, quand les robots arriveront, vous direz, bah tiens, en fait, ils ont l'air sympathiques. Finalement, ils font bien le travail. Ils le font mieux que le faisait ma bonne ou le machin, et que peut-être qu'il faut les employer. Peut-être que vous serez optimiste aussi à ce moment-là et vous direz, bah tiens, cette pauvre dame venue du Congo pour nettoyer les toilettes, peut-être qu'elle mérite mieux que ça et d'être remplacée par un robot qui le fait, mais pourquoi pas, hein. Moi, je pense qu'elle mérite mieux que ça, mais il faut qu'on trouve dans ce cas-là, encore une fois, une activité à la hauteur de l'être humain qui le grandisse pour cette dame-là.
Et puis, est-ce que je n'irai pas chercher encore dans les toilettes? Mais est-ce que toute tâche faite avec soin pour le bien des autres n'a pas sa noblesse ?
Si, je suis tout à fait d'accord. Non, mais sauf que, encore une fois, si on arrive à avoir des machines qui le font mieux, on ne va pas se priver de les utiliser. Enfin, on ne va pas, en tout cas, les gens qui les ont fabriqués. Efface vraiment à ce que Günther Anders, grand critique de la technique, appelle la honte de l'homme devant la machine. En fait, c'est déjà ce qu'on a, nous, face à l'IA. C'est-à-dire que là, on voit quelque chose qui est capable de faire nos tâches, nos métiers, nos activités mieux que nous. Et on éprouve une sorte de honte de notre faiblesse humaine parce qu'on est capable de se tromper, de rater, d'être fatigué, de dormir, de penser à autre chose, ou de ne pas avoir envie de travailler. En revanche, l'IA le fait immédiatement, parfaitement, comme vous le dites, en écrivant bien en français, des choses comme ça. Et dans ce sens-là, on se sent vraiment remplacé et honteux. Et c'est là où le pape essaye de rappeler à l'humanité qu'elle est magnifique et en quoi elle est magnifique, c'est-à-dire qu'elle est faite de chair, de corps, et d'âme que n'auront jamais la machine. Et c'est là où il conclut sur la question de l'Eucharistie pour un catholique. C'est-à-dire que c'est vraiment l'Eucharistie, c'est en le corps du Christ.
Oui.
Et s'il prend ce pain et ce vin pour dire c'est mon corps et mon sang, c'est bien que c'est ça qui fait notre humanité et que n'aura jamais une IA ou même un robot très bien fait. En fait.
Et quels sont les dangers vis-à-vis de la foi ?
Ça c'est une bonne question vis-à-vis de la foi, ça de prendre tout simplement c'est l'idolâtrie déjà, de croire que cette chose est un dieu, la réponse à tout, peut tout faire pour vous et que vous n'avez plus besoin du vrai dieu pour votre salut, que vous êtes tout puissant,
omnipotent, et que déjà la science avait déjà combattu l'idée de dieu.
Une certaine science, mais vous savez qu'on disait un peu de science éloigne de dieu, beaucoup y ramène, comme on peut dire, mais vous avez... un Bergson, par exemple, vous ramène à la foi.
Oui, mais il y a quand même beaucoup de scientifiques qui n'ont pas la foi.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est plus ou moins que dans le reste de l'humanité.
Jusqu'au XVIIIe siècle, la grande majorité des gens croyaient. Il y avait des libertins, mais qui faisaient ça plutôt par provocation, et qui, au soir de leur vie, demandaient vite l'aide d'un confesseur. Et il paraît que même Voltaire a demandé un confesseur.
Oui, paraît-il, oui.
Bon, j'espère qu'il n'est pas arrivé à temps.
Non.
On va quand même passer un dernier morceau de musique. Ce morceau de musique-là... D'accord.
«
Alors, Jacques de Guilbon, pour nous éclairer sur cette encyclique, parce que nous n'allons pas aborder tous les points, vous avez fait appel à deux commentateurs, deux observateurs de qualité. Le premier est Jean-Pierre Dupuis, puisque je ne vais pas parler de la préface de Mgr Olivier Le Borgne, qui a peut-être un contenu plus...
pastoral.
Oui, c'est ça, plus pastoral, peut-être un peu moins critique dans le bon sens du terme. Jean-Pierre Dupuis, quel est son regard vis-à-vis de l'encyclique du pape ?
Alors Jean-Pierre Dupuis, c'est un grand philosophe et grand philosophe des sciences qui a un âge avancé aujourd'hui, quoi qu'il soit en pleine forme intellectuelle et physique aussi, je pense, et qui, au cours de sa carrière, a beaucoup travaillé sur la question de la cybernétique, de la technique, tout ce qui est arrivé en fait à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il a vu se développer au cours de sa carrière toutes les étapes de ça. Et quand on a commencé à parler quand je lui ai demandé en fait de faire une postface pour Magnificat Humanitas, il m'a dit oui, j'accepte tout de suite, mais je suis moi-même effrayé, même en ayant travaillé en fait depuis 50 ans sur ce sujet, par le saut qui a été fait en fait ces dernières années, qu'on assiste à quelque chose de prodigieux et donc d'angoissant en fait, qui était presque inattendu même pour les gens qui avaient travaillé dessus. Ils pensaient pas que ça allait arriver si vite en fait à ce stade-là de l'intelligence artificielle.
C'est une question,
en fait,
je ne veux pas j'approche de son âge, mais c'est pas une question d'âge.
Pas que je sache, ça, il faudrait le demander, mais il a enseigné donc à l'école polytechnique et à Stanford jusqu'à il y a peu. C'est à la fois un élève de René Girard, qui était lui aussi un professeur français exilé à Stanford, et de Ivan Illich, qui est un des grands critiques de la technique, qui était un prêtre catholique d'ailleurs, Ivan Illich. Il se trouve que par ailleurs, Jean-Pierre Dupuis donc, est leur élève, mais elle s'est retrouvée à être le professeur de Peter Thiel, qui est un des grands pontes de la tech américaine aujourd'hui, qui est un personnage assez fascinant et angoissant, qui est le fondateur de Palantir notamment, qui est un logiciel gigantesque de traitement de données, notamment par IA, que utilise même la DGSI aujourd'hui. En France, alors qu'on sait que les données sont envoyées ensuite aux États-Unis et à cette entreprise Palantir. Enfin bref, c'est quelqu'un d'assez angoissant et Jean-Pierre Dupuis s'en veut un petit peu d'avoir été le professeur de ce Peter Thiel sans le savoir. Et donc Jean-Pierre Dupuis est donc quelqu'un qui est très critique de la technique contemporaine depuis très longtemps, donc, notamment dans sa descendance, si on peut dire, d'Ivan Illich. Et Jean-Pierre Dupuis, c'est quelqu'un qui avait calculé pour Ivan Illich dans les années 70 que vous n'alliez pas plus vite en voiture qu'à pied. Parce qu'en fait, le temps que vous passiez à travailler pour payer votre voiture, ses réparations, etc., si vous aviez employé ce temps pour marcher, en fait, vous seriez allé aussi loin qu'en utilisant votre voiture. Ce qui est un calcul qui montre quand même en quoi la désirabilité d'un confort matériel en fait, peut n'avoir rien à voir avec la performance finale. En fait, voilà. Oui. Et donc là, sur cette... sa lecture de Magnificat Humanitas, il est évidemment très catholique, Jean-Pierre Dupuis est très révérend devant le pape, mais il pense que Léon XIV ne voit peut-être pas toutes les implications que peut avoir l'IA, il le trouve de façon un peu trop gentil dans ce texte-là avec ce qu'il y a. Lui, en fait, il pense, Jean-Pierre Dupuis, que c'est quelque chose qui va vraiment changer donc ces IA-là, ces big data, ces algorithmes, qui va vraiment changer notre rapport totalement à la réalité, donc aussi à l'éthique, à la morale et à la vérité en fait, et qu'on sera incapable en fait au bout d'un moment pour je simplifie un peu parce que c'est un scientifique qui utilise beaucoup d'expériences de pensée comme on dit là dans son raisonnement. Il faut vraiment lire son texte qui est très dense, profond et très précis pour en prendre toute la saveur. D'ailleurs, je rappelle donc, livre est en librairie depuis deux jours et vous pouvez le procurer partout. Voilà, c'est Magnificat Humanitas à la 11e heure. Je fais ma publicité pour 10 euros seulement. Vous pouvez aussi le trouver sur le site de la 11e heure si vous le voulez. Donc, tout ça pour dire que donc, voilà, Jean-Pierre Dupuis pense qu'il termine en disant si le Christ revenait aujourd'hui et disait Ego aletheia, donc je suis la vérité, on ne saurait même plus ce que ça veut dire en fait. Il pense que l'IA, telle qu'elle est en train de se développer, est détruite l'idée même de vérité en fait. C'est-à-dire que. On ne sait plus, en fait, en parlant avec elle, au bout d'un moment, ce que nous connaissons de la vérité, ce qu'elle connaît de la vérité, en fait, et qu'il peut y avoir de la simulation, même chez l'IA, pour nous emmener quelque part, et qu'on se perd, en fait, au bout d'un moment, si elle continue à grandir comme ça, à se développer comme
il
ça,
on perd... Il voit des remèdes contre ça ?
Oh, lui, c'est remettre, je pense que c'est de pas utiliser du tout l'IA, en fait, et de s'en débarrasser, en fait, quoi, que ces IA de nouvelle génération sont terriblement dangereuses. Mais en rejouant encore une fois ce qu'ont demandé Sam Altman et Darius Amodei, qui demandent une pause, en fait, dans le développement de l'IA, de leurs propres IA, de leur... ce qu'ils ont créé, en fait. Ils demandent une pause parce qu'eux-mêmes ne savent pas où est-ce qu'elles vont et ils ont peur que ça crée quelque chose d'ingouvernable, de terrifiant.
Mais eux s'arrêteront peut-être, mais il y aura toujours des gens qui voudront continuer.
Oui, après, il faut que les gens aient aussi les capacités intellectuelles et matérielles et financières d'arriver à créer ça. Parce que je pense
actuellement, il y a combien de gens qui peuvent utiliser, qui peuvent développer l'IA et... C'est quoi, c'est ce compte par milliers, par millions?
Non, les créateurs, je pense que c'est quelques dizaines de gens, je pense, qui sont capables de comprendre ça, en fait. Après, il y a plein de petites mains qui sont utilisées pour développer, dupliquer les choses, aller chercher des données, etc. Mais je pense que les gens capables de comprendre ces fonctionnements de ces circuits neuroniques, neurologiques, etc., sont, à mon avis, très peu nombreux. Mais,
ah bon? Donc, on pourrait leur demander de s'arrêter?
On pourrait tous les tuer et le secret serait bien gardé, mais je ne sais pas. Vous connaissez cette histoire qui est peut-être apocryphe de Louis XV, à qui un savant, un savant français, vient présenter le fait qu'il a retrouvé le secret du feu grégeois. Le feu grégeois, c'est cette arme miraculeuse qu'utilisaient les Grecs et l'Empire byzantin, notamment pour brûler les vaisseaux de leurs ennemis sur la mer, en fait. Et qui aurait été inventé par Archimède et réutilisé par l'Empire byzantin, qui les a défendus plusieurs fois des invasions arabes, d'ailleurs, notamment. Et ça s'est perdu après. Et donc cet homme vient voir Louis XV et lui dit « J'ai le secret du feu grégeois, on pourrait l'utiliser. Et combien vous me donnez ?» Et Louis XV lui dit « Alors, non seulement je ne vais pas vous acheter le secret du feu grégeois, mais je vais vous payer pour que vous le révéliez jamais à personne, en fait. Voilà. » Et donc, parce qu'il trouvait que c'était une arme trop destructrice, que c'était pas, en tant que roi de France, qui avait... un honneur et qui...
Louis XV était un bon roi.
C'est une histoire qui a vérifié, parce que peut-être qu'elle est apocryphe, mais voilà. Donc on pourrait avoir comme ça quelqu'un aujourd'hui qui irait payer ces savants-là pour leur qui ne révèle jamais le secret de fabrication de l'IA, mais j'ai peur que ce soit trop tard et que ce secret soit possédé par les IA elles-mêmes maintenant, en fait, et que voilà. Voilà.
Donc Jean-Pierre Dupuis, lui, c'est... La frayeur, certaines frayeurs vis-à-vis de...
Jean-Pierre Dupuis, en fait, c'est une théorie qu'il a développée dans plusieurs livres qu'il appelle le catastrophisme éclairé. C'est-à-dire qui explique qu'il faut toujours supposer que quelque chose, que la catastrophe va arriver pour pouvoir l'empêcher d'arriver, en fait. Oui. Voilà.
Est-ce qu'il avait prévu des catastrophes qui ne sont pas arrivées?
Il est très critique du nucléaire et lui, je pense que... Il a prévu des catastrophes qui sont arrivées parce que son catastrophisme éclairé au début des années 2000, il pense qu'il va y avoir un accident nucléaire. Il y a eu Fukushima après, donc là-dessus, mais il n'a pas été écouté. Donc s'il avait été écouté, peut-être que Fukushima ne serait pas arrivé. Mais voilà, lui pense que le nucléaire, même civil, est quelque chose qui mène forcément à l'accident et que ça se terminera très mal, voilà. Par exemple. Mais donc, comme il n'est pas au pouvoir, il n'a pas pu empêcher des catastrophes, forcément, je pense. Mais en tout cas, il dit qu'il faut essayer de penser comme ça, que le pire est certain, pour empêcher le pire d'arriver.
D'accord. Et alors, Hugo Thiébès, lui, il a une vision plus pacifique, moins catastrophiste?
Côté-Bess, il a une vision, il voit un peu la catastrophe arriver sous ses yeux en tant qu'il est professeur agrégé au lycée depuis des années, et que c'est un peu ce qu'il a raconté dans son livre La vie machinale, qui est publié il y a quelques mois, qui fait que je lui ai demandé d'interpréter l'encyclique du pape, de la commenter. Lui est confronté donc à des élèves qui sont sans doute plein de bonnes intentions, certains plein de bonnes capacités, mais qui sont les esclaves et les jouets de leur IA, et que...
Mais l'IA a été introduite dans les écoles?
C'est-à-dire qu'ils ont tous des téléphones et qu'ils l'utilisent tous. Déjà, dès qu'ils font un devoir chez eux, il n'y a plus aucun devoir qui est fait sans IA. Oui. Maintenant, on peut toujours faire des devoirs sur table en supprimant tous les téléphones. Voilà, c'est ce que font les professeurs, mais même ça va être un dur combat pour arriver à faire ça. Et c'est le seul moment, en fait, où vous pouvez juger de votre élève, qui se juge lui-même d'ailleurs, face à tout seul à sa feuille et à son crayon. Mais autrement, ils sont tous drogués à ça, en fait. Ouais.
Donc, la baisse du niveau, enfin l'effondrement du niveau scolaire n'est pas uniquement lié aux méthodes actuelles, mais peut-être aussi...
Ça se surajoute, les nouvelles technologies, comme on dit, se surajoutent.
Est-ce que ça ne les force pas un peu de réflexion? Parce que l'IA ne dit pas les bêtises qu'ils disent, eux.
Oui, mais je sais même pas quand on leur pose une question et qu'ils y répondent avec l'IA, si ils réfléchissent vraiment à ce que leur dit l'IA, ils le recopient, ils le donnent
Mais
et
pour
voilà.
une
En fait,
rédaction, par exemple.
Et une rédaction, je ne sais même pas quel est l'intérêt d'utiliser l'IA, en fait, puisque une rédaction vous demande, vous, d'écrire et de dire ce que vous pensez, etc. Donc, si je vous dis raconter vos vacances,
L'IA peut le faire.
elle peut le faire, ce ne sera pas vos vacances à vous, donc ça n'a
Oh,
aucun intérêt, quoi.
mais oui, mais bon, mais ça s'en moque, du moins que ça leur vaut une bonne note.
Oui, voilà, c'est ça, mais ça, c'est ce qu'ils croient. Mais je pense que maintenant, tous les profs ont compris que leurs élèves fonctionnaient comme ça, donc.
Et alors, Gauthier Besse, devant tout ça, est aussi un petit peu catastrophé.
Oui, mais Gauthier Besse est une sorte de décroissant. Il vit dans un éco-hameau
Oui.
où il essaie, lui-même n'a pas de téléphone portable. Il faut passer par sa femme pour essayer de le joindre. Et à la fin, elle en a marre. Parfois, elle vous dit de vous débrouiller autrement parce qu'elle n'est pas son pigeon voyageur. Donc voilà, donc il vit comme ça. Il essaye d'éduquer ses enfants le plus loin possible de toutes ces technologies dans un village et de se priver le plus possible des
Oui,
techniques destructrices. Voilà. Mais
mais
peut-être a-t-il raison
est-ce qu'on peut vivre en dehors de tout progrès?
C'est pas en dehors de tout progrès, je pense qu'il utilise des mails par exemple, mais voilà, il essaye
Oui.
en tout cas de ne pas avoir de progrès invasif et esclavagisant. Mais moi je vis très bien sans usage de l'IA, je vous rassure. Vous avez vécu comme ça aussi
Oh oui.
au moins 30 ans de votre vie, puisque vous en
Oui,
avez 31 cette année. Voilà.
exactement. Mais vous savez tout sur moi.
Voilà.
Oui, effectivement. Et alors, qu'est-ce qu'il en conclut?
Bah, il en conclut que seul le Christ peut nous sauver et que l'Église est encore à sa place en rappelant ça et que c'est peut-être une des dernières, peut-être enfin ça a toujours été la dernière, mais là on commence à voir que c'est la dernière forteresse morale et la seule qui peut nous dire comment nous comporter pour nous sauver.
Et est-ce que l'Église a des... Parce que là, c'est une encyclique, c'est un mode d'emploi un petit peu de l'IA, mais est-ce qu'elle peut donner des réponses sur certaines questions que pose l'IA, des réponses catégoriques?
C'est-à-dire savoir si Dieu est trois personnes, oui, l'Église a la
Non, non, non,
réponse.
non, non, pas ça. Mais est-ce que, par exemple, est-ce que... Oh là, il me reste 2 minutes. Alors, on va en trouver une bonne question. Est-ce que... Est-ce que le Saint-Suaire est le vrai Saint-Suaire? Ah.
L'Église ne se veut pas remplacer la science, donc l'Église a fait faire des expertises scientifiques et elle attend que la science le dise. En tout cas, elle constate que le Saint-Suaire représente un homme qui ressemble beaucoup au Christ crucifié, flagellé, et que c'est une image dont on ne comprend pas l'impression, et qu'il est là depuis très longtemps, et qu'en tout cas,
Est-ce qu'elle peut nous
il aide
parler
à imaginer le Christ, en fait,
est-ce
et ses
qu'elle peut nous parler
souffrances.
de la fiabilité du carbone 14? Non. Mais là,
Non, c'est trop tard, je pense, mais.
de toute façon, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère, chers auditeurs, qu'elle vous a intéressé. Elle était en tout cas passionnante à faire. Merci Jacques de Guilbon.
Merci
Et
Philippe Richard.
Puis vous nous tenez au courant, mais de toute façon, j'ai moyen de me tenir au courant des publications de la 11e heure, et nous aurons le plaisir certainement de vous inviter une nouvelle fois.
Merci.
Au revoir, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal de la France Fidèle dirigé par Philippe Richard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 20 juin 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.